Radio de la Paix, il est 12h. Le journal de midi, Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le rôle et le poids de la société civile dans le débat démocratique en Côte d'Ivoire. Le sujet était récemment au centre de la 3e édition du Café démocratique, une initiative de la Fondation de l'innovation pour la démocratie et le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP à Abidjan. Opération de dégarpissement, les populations des quartiers de Cocody-Angré, Pansoro et d'Abobozo disent être désemparées et souhaitent dédommagement. Christelle Yessou les a rencontrées via un reportage que vous aurez dans quelques instants. Hors de nos frontières au Burkina Faso, la justice ordonne à nouveau la libération de Guy Hervé Kam, leader de la société civile. Et puis l'invité de la rédaction sera Maître Jean Yaovi Degli, avocat au barreau du Togo. Il se prononcera sur la nouvelle constitution qui fait désormais passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Sur le sujet et bien d'autres, Maître Jean Yaovi Degli sera interrogé par Aoussi Potin. Ouvrons cette édition avec la 3e édition du Café démocratique autour du thème « Que vaut la société civile ivoirienne aujourd'hui ?». Plusieurs panélistes ont poussé la réflexion sur le sujet à l'occasion de cette lucarne de discussion pour déterminer le rôle et le poids de la société civile ivoirienne dans la démocratie. C'était le vendredi 19 avril dernier à Abidjan, le compte-rendu de Mel Emmanuel.
Pour déterminer le poids de la société civile ivoirienne, deux points ont été soulevés au cours des échanges. Premièrement, le rapport des OSC aux citoyens, leur représentation et rôle joué dans les communautés, puis le rapport des OSC à la politique et aux institutions. Pour la panéliste Pulcheri Balé, la force de la société civile dépend du niveau de démocratie du pays où elle se trouve.
Le poids de la société civile dépend de la santé démocratique du pays où cette société civile exerce. Donc, si les principes démocratiques sont respectés, la société civile a la liberté d'expression, elle devient plus forte.
Quant à Vénance Conan, également panéliste, avant de parler de poids de la société civile, il faudrait que celle-ci soit mieux connue des population et non confondu avec les partis politiques.
Le rôle de la société civile en Côte d'Ivoire n'est pas très connu. Le problème avec la politique, c'est que beaucoup de sociétés civiles ou d'organisations dites membres de la société civile sont en réalité des appendices des partis politiques. C'est ça qui crée l'amalgame. Il faudra qu'on trouve les moyens de faire une distinction claire entre société civile et partis politiques. Quoi qu'il en soit, pour que notre démocratie prennent corps et s'installent, nous avons besoin d'une société civile forte.
Notons que le Café démocratique, cette tribune qui a abrité les débats, est une initiative de la Fondation de l'innovation pour la démocratie en collaboration avec le Centre de recherche et d'action pour la paix.
Parlons à présent de la journée de dialogue interculturel et intergénérationnel qui a récemment eu lieu à Bouna. Objectif, contribuer à la consolidation de la cohésion sociale et la prévention de l'extrémisme violent dans le nord-est de la Côte d'Ivoire. Une initiative du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec le PNUD. Les échos de cette activité avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans le Bounkani.
La nécessité d'une riposte sociale et humaine à travers le dialogue entre les cultures, les jeunes et les anciens dans la lutte contre l'extrémisme violent dans le nord de la Côte d'Ivoire, avec Evelyne Kofi, directrice des institutions socio-éducatives au ministère de la Jeunesse.
Vous savez très bien que ces vendeurs d'illusions et de terreur surfent sur les problématiques sociales, les problématiques humaines. Il est important de répondre à ce besoin de respect mutuel et de coopération entre les différentes générations, entre les différentes communautés, entre les jeunes, les adultes et les personnes âgées, dans la lutte contre l'expansion du terrorisme, de l'extrémisme violent dans les régions du Nord.
Les communautés de réfugiés et des demandeurs d'asile ont été associées à cette activité pour une participation plus inclusive, a dit Alassane Camara, analyste en prévention des conflits et de cohésion sociale au programme des Nations Unies pour le développement, Bureau du Nord.
Ces demandeurs d'asile n'ont pas demandé à venir dans notre pays. Il faut les accueillir parce qu'ils fuient une réalité qui est la menace des groupes extrémistes violents. Donc il faut faciliter au sein des communautés leur intégration. Et cela se fait à travers un processus, cela se fait à travers ce genre d'activité qui va booster leur inclusion et faire en sorte qu'ils puissent vivre dans un climat apaisé et cohésif avec leurs frères du Bounkani.
Des fresques ont été réalisées par les jeunes de Bouna, apostées dans les lieux publics pour marquer leur engagement au civisme en vue de lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent dans cette zone cible. Jérôme Kwasi Krou de Bouna, Radio de la Paix.
Deux projets de loi, l'un portant gestion de la faune et l'autre portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire ont été adoptés à l'unanimité des députés membres de la Commission de la Recherche, de la Science, de la Technologie et de l'Environnement. C'était le mardi 23 avril à l'Assemblée nationale à Abidjan Plateau sur le fond du projet de loi portant protection de l'éléphant en Côte d'Ivoire. Écoutons le ministre des Eaux et Forêts, Tchagba Laurent, émissaire du chef de l'État.
L'éléphant est donc un symbole d'une importance particulière pour notre pays. Cependant, force est de constater que cet animal est en train de disparaître du pays. Ainsi, la Côte d'Ivoire est passée d'environ 3000 éléphants dans les années 70-80 à environ 1100 éléphants dans les années 90, puis à environ 500 individus depuis 2020. Les causes de cette régression sont multiples. En tête de liste se place la disparition des habitats naturels, ensuite le braconnage, puis les conflits hommes-éléphants. Cependant, les actions fortes entreprises ces dernières années ont quasiment freiné le braconnage des éléphants. Le présent projet de loi vise à soutenir et à encadrer les engagements et actions qui tendent à éviter la disparition de l'éléphant de la Côte d'Ivoire. Il propose des actions innovantes en vue de restaurer les habitats des éléphants et garantir leur sauvegarde. Il institue pour ce faire des sanctuaires d'éléphants. Il a pour but de donner aux populations une perception nouvelle des habitats des éléphants.
Tchagba Laurent, le ministre des Eaux et Forêts. L'opération de déguerpissement se poursuit à Abidjan. Les populations des quartiers de Cocody, Engré, Pansoro et d'Abobozo se disent désemparées après avoir été déguerpies depuis le jeudi 18 avril par le district autonome. C'est ce que nous rapporte ce reportage de Christelle Yesso.
Des débris, voici ce qui reste de ce quartier précaire situé en dessous du pont Soro dans la commune de Cocody. Les habitants de ce quartier viennent en effet de subir un déguerpissement.
Moi-même, mécanicien, on nous a averti, ah, ils vont venir casser. Apprêtez-vous et puis quittez là. Bon, nous, on n'est pas quitté, nous, on était là. Bon, là, c'est compliqué. On n'a pas place pour partir, on n'a pas un endroit aussi pour partir.
Vous pensez que les gens vont revenir ici?
Ils pensent pas, ça là ils vont plus revenir ici, c'est fini. On voit que nous c'est en bas de haute tension. C'est à cause de haute tension là.
Là, en plein air, à même le sol, sur les restes de sa maison, Nyankini Salimatou, commerçante, passe la nuit.
C'est ici, elle va, c'est ici, elle dort. Je ne sais pas où il y a.
La nuit, là, on met les nattes ici, on dort. On dort ici, au milieu de voilà.
Même scénario du côté du quartier Zo, où les habitants disent n'avoir pas été avertis.
Quadio Pierre. Ils ont dit qu'ils devraient casser à 20 à 25 mètres de la voie principale. C'est ce qui a été fait. Hier, à notre grande surprise, les policiers sont arrivés au quartier. Ils nous demandent même de sortir des maisons, que les machines sont venues terminer les travaux.
Pris par surprise, ils ne savent où aller. Sur place, des centaines de familles vivent à ciel ouvert.
Kondo, Yungon, Ama, moi-même là, ici, là, comme ça. Peut-être qu'eux-mêmes, là, ils vont venir se lever ici. Ils savent les refaire encore comment ils doivent faire pour dormir même. Et regarde tous ceux-là, les parents. Ils ne savent même pas où ils s'en vont même. Imagine s'il pleut sur nous. Là, mais c'est gâté. Pour nous, là, mais c'est notre terminus qui est là.
Leur cri de cœur, un dédommagement du gouvernement, à l'instar des déguerpis de GESCO.
Transfert d'argent entre pays de l'UMOA. Près de 281 milliards de francs CFA ont été transférés en 2022 de la Côte d'Ivoire vers plusieurs pays de la sous-région, selon des chiffres fournis par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Qu'apportent ces transferts financiers à ces pays bénéficiaires et comment inciter ces diasporas à investir dans leur pays d'accueil? Là-dessus, les suggestions de Germain Cramo. Il est économiste, chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIREST.
ces migrants contribuent à la production de la richesse dans le pays dans lequel ils sont installés. Donc, ils contribuent à créer de la richesse dans ce pays. Et en retour, puisque la famille est restée au pays, donc il y a un transfert qui est fait pour que ses parents puissent plus ou moins subvenir à leurs besoins et aussi faire des investissements dans le pays au cas où ces derniers pourraient retourner au pays.
Quelle stratégie les autorités donc, de la Côte d'Ivoire pourraient mettre en place pour inciter ces ressortissants de ces pays à investir donc, en Côte d'Ivoire?
Pour la majorité de ces résidents, beaucoup sont dans des emplois, je peux dire, indépendants ou sont dans le secteur formel. Ces montants que ces personnes retournent au pays souvent servent à la nourriture, à régler les problèmes de santé, l'éducation de leurs parents qui sont restés au pays. Donc, souvent, ces fonds servent à satisfaire des besoins prioritaires. Donc, il serait pourtant difficile pour ces personnes de leur dire de ne pas faire ce retour vers leurs parents pour leur permettre d'avoir un mieux-être pour les pays qui reçoivent ces fonds. C'est une source de financement de leur économie. Comme vous l'avez dit, l'idée, ce serait de les encourager à investir davantage en Côte d'Ivoire. Il est important qu'on puisse développer des stratégies, comme vous l'avez dit, pour limiter les sorties d'argent, pour plus ou moins équilibrer notre balance des transferts. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que nous gagnons au niveau des transactions. Quand on prend les échanges de biens et services, la plupart du temps, la balance commerciale est excédentée en faveur de la Côte d'Ivoire.
Germain Cramo, économiste chercheur à la CAPEC, la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, joint par Jean-Claude Comé. Ouvrons une page santé. La Côte d'Ivoire vient d'obtenir l'accord de principe pour recevoir les vaccins de lutte contre le paludisme. Annoncé pour le mois de juillet 2024, ce vaccin est destiné aux enfants de moins de 5 ans et devrait entrer dans sa phase d'opérationnalisation au mois d'octobre 2024. L'information a été confirmée hier mardi 23 avril par le docteur Méa Antoine Tano, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. C'était à la faveur du rendez-vous hebdomadaire du CICG. Tout de suite, nous l'écoutons.
C'est confirmé qu'on aura le vaccin d'ici juillet. Avant de mettre le vaccin, il faut qu'on communique. Dès qu'on a le vaccin, nous allons faire un programme avec toute la population de Côte d'Ivoire pour informer de ce que la Côte d'Ivoire va commencer à faire le vaccin contre le paludisme. Parce que ce vaccin, il est un peu particulier. Il ne respecte pas tout le chronogramme du programme élargi de vaccination. Ce vaccin ne va pas être fait par le programme seul, non. C'est en accord avec le programme élargi de vaccination que cette vaccination va se dérouler. Mais le vaccin, c'est pour les enfants de moins de 5 ans. Donc cette année, on s'est dit qu'au plus tard, au plus grand tard, le mois d'octobre, les enfants doivent pouvoir bénéficier du vaccin. Mais il va y avoir la promotion du vaccin, la communication sur le vaccin, jusqu'à ce qu'on arrive à l'effectivité de la vaccination. Quant à la campagne 2024, c'est de mai à juin. Que très bientôt, on va annoncer les dénombrements, à informer la population de ce pour qu'elle ouvre leurs portes pour recevoir les agents de dénombrement, pour savoir combien ils sont dans les ménages, pour pouvoir faire une estimation réelle avant la distribution.
Les propos du docteur Tano Méa Antoine, directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme, ont été recueillis par Mata Touré. Les responsables de la mutuelle des opérateurs du commerce de Côte d'Ivoire, à travers la coordination du district de la vallée du Bandama, a organisé le samedi 13 avril à Boaké une réunion d'information et de sensibilisation. Objectif, inciter les acteurs de la filière à adhérer massivement. On en sait plus avec Joseph Assalé, notre correspondant dans le Béquet.
La création de la mutuelle des opérateurs de commerce de Côte d'Ivoire tire sa justification d'une analyse situationnelle. Drissa Diara Souba, secrétaire général de cette organisation.
On a constaté que les commerçants sont aujourd'hui peu organisés et il fallait trouver vraiment un mécanisme pour pouvoir vraiment sortir de cette situation. Aujourd'hui, vu l'étendue du territoire, on peut constater peu de commerçants même qui ont un registre de commerce. Pour ces 10 commerçants en Côte d'Ivoire, il faut d'abord avoir un régime de commerce. Et la majeure partie des commerçants sont des analphabètes. La mutuelle va corriger beaucoup de choses pour sortir de cette situation de précarité. Il y a des formations qui sont prévues, s'organiser, se former. Lorsque tu es formé, ton chiffre d'affaires peut évoluer.
D'autres opportunités s'offrent également aux opérateurs du commerce, révèle Innocent Kouassi, inspecteur à la Direction régionale du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME de Boaké.
évoqué.
La création d'un hôpital des commerçants. Et ils pourront alors désormais se soigner aisément via un dernier projet même qui est le financement. C'est quelque chose de bon augure.
C'est ce que pense d'ailleurs Lassana Traoré, président du groupe d'intérêt économique au marché de gros de Boaké.
Si aujourd'hui il y a une mutuelle pour pouvoir organiser et puis aider les commerçants, je pense que ce sera très bienvenu.
Les initiateurs de cette mutuelle de commerçants exhortent les opérateurs de la filière à adhérer massivement à cet instrument d'entraide. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, la justice burkinabé a de nouveau ordonné la libération de Guy Hervé Kam, célèbre avocat et leader de la société civile, arrêté fin janvier et détenu depuis, a indiqué mercredi son organisation. La décision du 7 mars dernier n'a pas été exécutée par les autorités burkinabé et l'avocat est toujours en détention, selon AFP. Il est notamment connu au Burkina Faso pour avoir été l'avocat de la famille de Thomas Sankara, ex-chef d'État tué lors d'un coup d'État, rapporte l'AFP. Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui est Maître Jean Yao Bi Degli, avocat au barreau du Togo. Il se prononce sur la nouvelle constitution qui fait désormais passer le pays d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Sur le sujet et bien d'autres, Maître Jean Yao Bi est interrogé par Aoussi Potin.
Maître Degli, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Les députés togolais viennent de voter un nouveau texte constitutionnel. Alors, fondamentalement, dites-nous, Maître Degli, qu'est-ce que ce nouveau texte va apporter de nouveau dans la gestion du pouvoir au Togo?
La nouvelle constitution est une constitution qui porte un régime parlementaire, alors que l'ancien portait un régime semi-présidentiel qui est le système utilisé en France. Le régime parlementaire, c'est le régime qu'on a en Allemagne et en Angleterre, puis en Israël et dans d'autres pays. Contrairement au régime présidentiel ou semi-présidentiel, dans ce régime, le président de la République n'a pas de pouvoir. Il occupe en fait une fonction honorifique. La réalité du pouvoir se trouve entre les mains de celui qui joue le rôle de premier ministre, donc qu'on appelle chancelier en Allemagne, le président du Conseil en Italie. C'est lui qui concentre la réalité du pouvoir dans ses mains et lui aussi est désigné par l'Assemblée. Ce qu'il y a de véritablement important dans ce genre de régime est certainement qui fait que les gens sont un peu remontés sur la manière dont il a été adopté, c'est que dans ce régime, il n'y a pas de limitation de mandat. En fait, tant que votre parti politique est majoritaire à l'Assemblée ou tant qu'il peut se proclamer majoritaire, eh bien, c'est son représentant qui joue le rôle de chef de gouvernement. Et dans le cas du Togo, on a désigné ce chef de gouvernement sous le vocable de président du Conseil des ministres.
Alors, au-delà donc de ce point que vous venez de relever, de savoir la non-limitation de mandat, qu'est-ce qui justifierait aussi le fait que l'opposition, dans sa grande majorité, soit vent debout contre cette nouvelle constitution?
Oui, en fait, l'opposition est vent debout aussi à cause de la manière dont la chose a été faite. Vous savez, un changement de régime, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une simple petite révision constitutionnelle. Vous voulez passer d'un régime à un autre carrément, je crois qu'il est indispensable qu'on ouvre le débat, que les populations puissent discuter, voir à quelle sauce elles vont être mangées demain. Et puis, cela doit se faire par référendum. Le peuple tout entier doit être intéressé. Dans notre cas, il se fait que c'est une assemblée en fin de mandat qui est chargée d'expédier les affaires courantes et les affaires urgentes qui a procédé à l'adoption de ce nouveau régime et donc de cette nouvelle constitution, pendant même que cette assemblée, les députés étaient sur le point d'aller en campagne pour le renouvellement. Et cette assemblée est arrivée à sa fin de vie depuis le mois de décembre. Donc c'est cette manière de faire, le fait que les gens ne soient pas consultés, que par exemple jusqu'à aujourd'hui, personne ne connaît véritablement le contenu du texte de la nouvelle constitution. C'est tout cela qui fait que les gens sont courroucés.
Alors, Maître Degli, vous êtes aussi l'un des initiateurs de la Constitution de 92, toujours au Togo. Est-ce que pour vous, cette révision s'imposait?
Dans la réalité, je dis que personne n'a vu la chose venir et rien ne justifiait le changement de régime. En réalité, quand on veut changer de constitution, changer de régime, cela signifie qu'on a pratiqué le régime dans lequel on est et que cela n'a pas marché. Dans notre cas, la constitution de 92 n'a même pas été appliquée. À chaque fois, nos dirigeants essayent de changer la constitution, de la modifier, de la tripatouiller, de la mettre à leur mesure. Au lieu de se conformer à la constitution, les dirigeants togolais ont plutôt voulu que la constitution se conforme à eux. Donc, dans la réalité, la constitution n'a pas été appliquée et suscité un blocage ou un conflit qui amène à penser à avoir une autre constitution. C'est la cause de ça que beaucoup pensent que la seule raison qui justifie du côté du pouvoir le changement de constitution, c'est le fait que dans cette constitution, il n'y a pas de limitation de mandat et que demain, le Togo sera définitivement à l'abri d'une question de limitation de mandat.
Alors, dans le même temps, le collectif des associations contre l'impunité au Togo, en abrégé CACIT, demande au président des institutions de la République de saisir la Cour constitutionnelle pour statuer sur la constitutionnalité du test et vérifier si ces dispositions répondent aux normes. Est-ce que cette demande de ce collectif a des chances d'aboutir?
Quand vous êtes au Togo, vous savez que ce genre de demande n'aboutira à rien. La Cour constitutionnelle confirmera purement et simplement. En tout état de cause, je ne crois pas que ce sont les dispositions de cette nouvelle constitution qui posent problème et je ne crois pas qu'elles sont contraires à notre constitution actuelle. Le problème, c'est qu'il y a une situation nouvelle qui va être créée, que beaucoup n'acceptent pas, et puis il y a des conditions d'adoption qui sont inacceptables pour beaucoup. Voilà.
Merci Maître Degli pour tous ces éclairages.
Merci beaucoup.
Aujourd'hui, invité de la rédaction, Maître Jean Degli, avocat au barreau du Togo, par ailleurs président du mouvement Bâtir le Togo, était avec Kaoussi Potin. C'est ce qui referme le 12 heures dont voici le rappel des titres. Le rôle et le poids de la société civile dans les débats démocratiques en Côte d'Ivoire. Le sujet était récemment au centre de la 3e édition du Café démocratique, une initiative de la Fondation de l'innovation pour la démocratie et le Centre de recherche et d'action pour la paix à Abidjan. Et puis hors de nos frontières au Burkina Faso, la justice ordonne à nouveau la libération de Guy Hervé Kam, leader de la société civile. Merci de votre attention. À 15h, retrouvons-nous pour un flash d'information. Mais avant, la revue de presse avec Francis Cassis.
Bonjour à tous. Nous ouvrons notre examen de vos journaux de ce mercredi par la prochaine élection présidentielle.